Ce podcast a été réalisé à partir de l'enregistrement du webinaire organisé par GPS Cancer le 28 avril 2023 sur le thème « Cancer et droits des patients et des aidants » avec l'intervention de Dominique Thierry, juriste spécialisée en droit de la santé, initiatrice de l'association Juris Santé.
Dominique, en 2022, il y a eu beaucoup de changements qui sont apparus là dans le... concernant le retour au travail. Alors, est-ce que tu peux plutôt nous expliquer un petit peu tous ces changements qui ont été proposés pour les patients?
Alors, déjà, une des grandes nouveautés, ça a été la mise en place d'un rendez-vous de liaison qui est dorénavant possible pendant la suspension du contrat de travail. Donc, avant, il y en a certains d'entre vous, ils doivent s'en rappeler, quand vous êtes en arrêt de travail, en fait, le contrat de travail est suspendu et l'employeur n'a plus le droit de vous contacter pour vous poser des questions, enfin pour vous solliciter pour différentes choses. Les seules raisons pour lesquelles historiquement l'employeur pouvait vous contacter, c'était sur des renseignements. Vous avez quitté l'entreprise et il n'a pas le code d'accès de votre ordinateur. Donc des questions d'organisation de l'entreprise. Vous avez quitté l'entreprise et vous avez emporté avec vous un téléphone portable. Donc là, il peut vous contacter pour voir comment récupérer le téléphone portable. Voilà, sur des questions comme ça, l'employeur avait effectivement le droit de prendre contact avec vous, mais pour tout le reste, en principe, il n'avait pas le droit de vous appeler, de vous solliciter. Et au point que, en principe, les juristes qui travaillent qui sont dans les services juridiques des grosses entreprises déconseillaient effectivement aux entreprises qui souhaitaient parfois juste prendre des nouvelles de leurs salariés, on leur disait non, suspension du contrat de travail, vous n'avez pas à contacter le salarié. Donc ça fait depuis, je dirais, les années 2012 que progressivement on a commencé à quand même dire c'est quand même pas idéal cette situation, et si le salarié accepte, dit qu'il est d'accord pour être contacté en disant aussi comment il veut être contacté, par SMS, par mail, par téléphone, éventuellement il précise une fois par semaine, tous les 15 jours, une fois par mois, et puis il a aussi la possibilité de dire moi j'ai plus, là j'ai envie d'être, qu'on me laisse tranquille et j'ai pas envie d'avoir des nouvelles de mes collègues et de mon entreprise pendant X temps. Tout ça doit être entendu. Donc, ça a commencé à rentrer dans les bonnes pratiques des entreprises de dire, effectivement, essayez quand même de garder du lien avec les personnes. Nous, de notre côté, ce qu'on constatait, c'est que les personnes, souvent, en fait, elles appelaient, elles disaient, de toute façon, mon employeur, il s'en fiche de moi, je ne l'intéresse pas, il ne m'a jamais appelé, il n'a jamais pris de mes nouvelles. Et donc, nous, on faisait un travail de pédagogie d'expliquer qu'au regard des textes de loi existants, en fait, il était probable que même si l'employeur avait envie de les appeler, ils avaient un service juridique qui le leur interdisait. Donc, il y avait vraiment un manque à ce niveau-là, et même en ayant ces bonnes pratiques, si vous voulez, qui se sont inscrites dans un certain nombre d'entreprises où effectivement, maintenant, dès que la personne est en arrêt de travail, lorsqu'elle appelle pour dire qu'elle envoie son arrêt de travail, etc., on lui demande, est-ce que vous souhaitez être contacté, est-ce que vous souhaitez est-ce qu'on peut vous demander des nouvelles de temps en temps, sous quelle forme, etc. Ou il peut y avoir aussi, pour les entreprises qui ont effectivement des assistantes sociales, alors c'est souvent les assistantes sociales qui vont prendre contact avec les personnes pour leur proposer effectivement de pouvoir prendre des nouvelles de temps en temps et de faire le relais et de voir si elles veulent quand même être contactées par quelqu'un. Donc, progressivement, il y a eu comme ça des choses qui se sont mises en place, mais de manière informelle. Donc là, la création du rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous qui permet d'anticiper le retour au travail, d'avoir des informations quant à ce qui se passe dans l'entreprise, de voir est-ce que je vais pouvoir reprendre mon poste ou pas, sous quelles conditions, avec quels aménagements, d'évoquer le temps partiel thérapeutique, d'évoquer les aménagements nécessaires du poste, en anticipant la reprise. Et donc, ce rendez-vous de liaison, Il peut être demandé à la fois par l'employeur, mais il peut aussi être demandé par le salarié. Et là-dedans, alors on a peu de recul puisque c'est quelque chose qui a été mis en place en 2022. De mémoire, c'était au mois d'avril. Donc, on a effectivement peu de recul sur l'utilisation dans les faits de ce rendez-vous de liaison. Mais nous, de ce qu'on constate en tout cas sur la ligne téléphonique, c'est plutôt les salariés qui vont solliciter ce rendez-vous de liaison que l'employeur. Alors, c'est un
rendez-vous. Juste une petite question, Dominique. Comment on sollicite ce rendez-vous avec son employeur?
De manière, on lui envoie un mail. La plupart du temps, les personnes mail à l'employeur et sollicite. Ça peut être un courrier. C'est assez, voilà,
Il n'y a pas besoin que ce soit en lettres recommandées. Ça peut se faire d'une manière très simple.
Ça se fait d'une manière très simple. Après, c'est vrai que le texte de loi prévoit que lorsque on demande une visite, un rendez-vous de liaison, déjà, ce n'est pas un rendez-vous médical, c'est pas une visite médicale, c'est vraiment une rencontre avec l'employeur. Mais en principe, quand l'employeur reçoit cette demande, il doit en informer le service de santé au travail, qui peut être présent lors de ce rendez-vous pour également expliquer la visite de pré-reprise, la visite de reprise, etc., le temps partiel thérapeutique, déjà avoir…
Oui, d'accord, parce que pour bien comprendre ce que tu es en train d'expliquer, c'est un rendez-vous de liaison qu'on peut faire à n'importe quel moment dans le parcours et que ça vient s'ajouter à ce que tu vas peut-être nous expliquer, qui est l'accès à la visite de pré-reprise.
Tout à fait. C'est, si tu veux, la visite de pré-reprise, c'est une visite médicale avec le médecin du travail. Mais comme ce que je vous ai fait sentir, c'est qu'il y avait aussi un besoin d'avoir un temps d'échange avec l'employeur qui soit protégé, puisque jusque-là, en fait, il y avait de temps en temps, il y avait des employeurs qui effectivement proposaient une rencontre avant la reprise du travail, mais avec, voilà, c'était pas prévu dans les textes. Donc, avec toujours l'employeur qui avait peur, s'il propose ça, s'il y a un contrôle de la sécurité sociale, est-ce qu'il va pas se faire taper sur les doigts? Est-ce que la personne va pas risquer de perdre ses indemnités journalières? Parce qu'on suspecte que c'est un temps de travail et pas, voilà, comme c'était pas encadré. Donc là, le rendez-vous de liaison, c'est vraiment un temps qui permet aux salariés de solliciter son employeur pour évoquer son retour, sa reprise du travail et sous quelles conditions cette reprise va se faire. Et donc, dans les textes, effectivement, on a prévu que le service de santé au travail soit informé de ce rendez-vous de liaison et puisse être présent lors de ce rendez-vous de liaison. Moi, pour avoir échangé avec plusieurs médecins du travail, ils me disent que dans les faits, ça, dans la pratique, ça va être un peu plus compliqué parce que certains d'entre vous doivent le savoir. Aujourd'hui, il y a une véritable pénurie de médecins du travail, une surcharge aussi au niveau de leur charge de travail. Donc, moi, ils m'ont dit, ils doutent qu'ils arriveront effectivement à être présents sur tous les rendez-vous de liaison qui seront demandés par les salariés. Mais c'est vraiment, c'est un temps privilégié. Alors, ils n'ont pas spécifié. Moi, je pense que si on a besoin de 2-3 rendez-vous de liaison, c'est tout à fait possible. On parle d'un rendez-vous de liaison à l'heure actuelle, mais je pense que si quelqu'un…
Oui, très bien, on peut avoir plusieurs.
Parce que c'est assez logique, c'est comme la visite de pré-reprise, parce que vous avez quelqu'un qui pense qu'il va pouvoir reprendre le travail et puis il se fait qu'il y a un problème de santé. Et donc, finalement, il y a un décalage. On pense pouvoir reprendre au mois de juin. On est au mois de mai, là. On pense pouvoir reprendre au mois de juin. On organise son rendez-vous, là, courant du mois de mai. Et puis, finalement, il y a une mauvaise nouvelle ou il y a un problème quelconque qui fait on n'a pas récupéré suffisamment. On va prolonger l'arrêt de travail. Eh bien, on pourra effectivement reprogrammer un autre rendez-vous de liaison dans ce cas-là. Mmh.
Donc, ce qui a changé aussi, là, c'était dans la visite de pré-reprise, hein, c'était le temps où on pouvait, qui a été diminué à 30 jours.
Oui, c'est ça. En fait, précédemment, la visite de pré-reprise était accessible aux salariés qui étaient en arrêt de travail depuis 30 jours. Donc, dans les faits, ça fait longtemps que les médecins du travail, souvent, acceptait de toute façon des salariés qui n'étaient pas en arrêt de travail depuis 30 jours et qui leur accordait quand même cette visite de pré-reprise. Donc aujourd'hui, dans les textes, il est noté que c'est pour les salariés qui sont en arrêt de travail depuis 30 jours et les médecins du travail avec lesquels j'échange m'ont dit, mais même un salarié qui est atteint d'un cancer, qui est en arrêt de travail depuis moins de 30 jours et qui veut faire une reprise et qui a besoin d'informations, etc. par rapport à cette reprise, il recevra un accueil favorable pour une visite de pré-reprise. Mais dans les textes, c'est à partir de 30 jours. Donc ça, c'est une grosse modification, hein, parce qu'avant, c'était vraiment, il fallait être arrêté depuis, en principe, il fallait être arrêté depuis 3 mois pour accéder à la visite de pré-reprise. Et le problème, c'est moi, je le sais que les médecins du travail, ils vont accepter, ils auraient accepté même en amont, mais quand les personnes se réfèrent au texte sur les sites internet, ils vont toujours trouver 3 mois. Donc, il y avait des personnes qui n'organisaient pas ces visites de pré-reprise. Donc, je rappelle, hein, la visite de pré-reprise, c'est une visite qui a lieu alors que la personne est encore en arrêt de travail. Elle va rencontrer le médecin du travail qui va évoquer avec elle les conditions optimales pour reprendre ce travail. Est-ce que c'est un temps partiel thérapeutique? Quelle serait la charge? Enfin, déjà, le temps partiel thérapeutique, est-ce que c'est un temps partiel thérapeutique sur, je sais pas, par exemple, 30% du temps de travail? Est-ce que c'est 50% du temps de travail? Est-ce que c'est 60% du temps de travail? Donc, ça, c'est déjà évalué pendant la visite de pré-reprise. On évalue également la charge de travail que la personne peut être amenée à diminuer, parce que si vous voulez, ça n'a pas de sens si vous avez un temps partiel thérapeutique et qu'on vous garde exactement la même charge de travail. Ça arrive, hein, mais il faut aussi discuter de la charge de travail. Ça peut être une mise au point sur les missions, parce que c'est pareil, si vous êtes dans un statut où vous avez un certain nombre de missions qui vous échouent, vous ne serez pas le même nombre de missions si vous êtes en temps partiel thérapeutique que si vous êtes à plein temps. Donc voilà, c'est aussi à ce moment-là qu'on va voir est-ce qu'il faut faire une demande, si la personne ne l'a pas encore introduite, est-ce qu'il faut faire une demande de reconnaissance qualité de travailleur handicapé, parce qu'il y a éventuellement des aménagements de poste, par exemple l'achat d'un fauteuil ergonomique, l'achat d'un logiciel spécifique, enfin, tous les aménagements matériels qui peuvent bénéficier de financement, mais seulement si la personne est reconnue en tant que travailleur handicapé, que ce soit par la RQTH ou par une pension d'invalidité d'ailleurs. Mais il faut avoir ce statut de travailleur handicapé, autrement on n'aura pas accès au financement de la GFIP. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment être abordées lors de la visite de pré-reprise.
Alors, là, justement, dans la visite, après, il y a la visite de pré-reprise et puis il y a la visite de reprise. Alors, si vous avez bien compris, on est vraiment dans un parcours, hein, qui s'étale. Hein, je fais le rendez-vous de liaison, la visite de pré-reprise et la visite de reprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme changement à ce niveau-là ?
Dernière précision, la visite de pré-reprise, elle ne peut être demandée que par le salarié. Le médecin, le salarié peut la demander parce que c'est son médecin traitant qui lui demande de faire la visite de pré-reprise, ou c'est le médecin conseil de la sécurité sociale qui lui demande d'organiser une visite de pré-reprise, mais en aucun cas l'employeur ne peut organiser une visite de pré-reprise. C'est une prérogative du salarié et les visites de pré-reprise sont gratuites et confidentielles. Donc si un salarié se rend à une visite de pré-reprise et ne souhaite pas partager les préconisations du médecin du travail, eh bien, il pourra dire pour l'instant, je ne veux pas que ce soit communiqué à mon employeur, on ne lui communique rien. On peut avoir plusieurs visites de pré-reprise aussi, ça c'est important. Et donc, j'arrive effectivement dans ce process et dans ce parcours, effectivement, le jour où la personne va reprendre le travail, donc son arrêt de travail se termine, à ce moment-là, effectivement, l'employeur, lui, va devoir organiser la visite de reprise dans les 8 jours. Et cette visite de reprise, avant, elle devait être organisée systématiquement dès qu'il y avait un arrêt de travail qui avait duré 30 jours. Ben aujourd'hui, à l'inverse des autres dispositions, là maintenant, il faut que l'arrêt de travail il ait duré au moins 60 jours pour que l'employeur soit obligé d'organiser une visite de reprise. Mais autre précision, si le salarié a été arrêté moins de 60 jours mais reprend le travail dans des conditions normales, mais il n'y aura pas d'organisation de visite de reprise. Par contre, s'il y a une mise en place d'un aménagement, que ce soit horaire ou matériel, à ce moment-là, même si on n'a pas le délai de 60 jours, on va quand même organiser la visite de reprise.
Et c'est là qu'intervient, c'était aussi l'essai encadré.
Alors, l'essai encadré, ça c'est encore autre chose, c'est dans les nouveaux dispositifs qui ont été créés en 2022, puisque si vous voulez, jusqu'en 2022, qu'est-ce qui se passait ? On passait de l'arrêt de travail, très souvent, surtout en oncologie, on passait de l'arrêt de travail au temps partiel thérapeutique. Et ils ont souhaité mettre en place un autre dispositif encore, qui est l'essai encadré, puisque quand vous passez de l'arrêt de travail au temps partiel, à la prescription d'un temps partiel thérapeutique qui en fait est une prolongation de l'arrêt de travail, mais avec une reprise du travail, vous reprenez votre poste, vous reprenez vos missions, etc., etc. Enfin, il y a des exigences et l'employeur, la sécurité sociale continue à vous verser les indemnités journalières et l'employeur va vous régler les heures effectives que vous avez travaillées. Donc, là, le législateur a souhaité mettre un autre dispositif à disposition qui est l'essai encadré. Et l'essai encadré, ça permet à la personne dont on voit lors de la visite de pré-reprise, alors ça va plutôt se décider sur la visite de pré-reprise ou même lors du rendez-vous de liaison, plutôt que sur la visite de reprise. La visite de reprise, on a déjà repris le travail, hein. Donc, c'est plutôt en amont sur le rendez-vous de liaison ou au moment de la visite de pré-reprise, ou quand on a un contrôle avec la sécurité sociale et qu'on se dit oui, la reprise de poste risque d'être compliquée, ça peut être difficile, la personne est à risque de pas pouvoir reprendre son poste, on peut lui proposer à ce moment-là un essai encadré. L'essai encadré, c'est 14 jours qui peuvent être renouvelés une fois, donc c'est un maximum de 28 jours. Ils sont fractionnables, hein, c'est pas nécessairement 14 jours d'affilée ou 28 jours d'affilée, ils peuvent être fractionnés au regard de l'état de santé de la personne et des capacités de réponse de l'entreprise aussi, hein, cet essai encadré, puisqu'il faut un tuteur, enfin bref, il faut quand même un petit peu d'organisation autour de ça. Et ça va permettre à la personne de voir si son poste de travail est encore compatible avec son état de santé. Et là, il n'est pas rémunéré par l'employeur. Il est rémunéré exclusivement par la sécurité sociale, par les indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc, c'est pour ça que c'est pour moi, ça prend vraiment place. On se dit, je reprendrai bien en temps partiel thérapeutique, mais je ne suis pas tout à fait sûre d'être en capacité de reprendre en temps partiel thérapeutique. Je ne suis pas tout à fait certaine de pouvoir reprendre mon poste ou je suis certaine de ne pas pouvoir reprendre mon poste, mais j'aimerais tester un autre type de poste. À ce moment-là, on peut mettre en place cet essai encadré. Et donc, ça se fait effectivement en collaboration avec la sécurité sociale, avec la médecine du travail et avec l'employeur. On peut faire cet essai encadré dans son entreprise, mais on peut aussi le faire dans une autre entreprise.
Alors, ça veut dire que là aussi, c'est la personne qui fait la demande. C'est oui. Elle qui va émettre et elle va s'adresser à qui directement à ce moment-là ? Ce n'est pas son employeur, elle va voir ça avec avec l'assurance maladie.
Oui, alors c'est soit, si tu veux, c'est l'assurance, c'est le médecin conseil, la sécurité sociale qui identifie qu'il va y avoir des difficultés sur la reprise du poste, qui propose un essai encadré, ou c'est le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise qui se rend compte que ça va être compliqué et qui à ce moment-là propose l'essai encadré. C'est une personne pourrait le solliciter, mais le meilleur endroit pour le solliciter, c'est le médecin du travail. C'est de solliciter une visite de pré-reprise et aborder la question d'un essai encadré avec le médecin du travail.
Et ça marche qu'on soit dans le privé ou dans le public ?
Non,
qu'on soit salarié du privé.
C'est dans le privé actuellement.
C'est que dans le privé. Il y avait une question sur est-ce que le rendez-vous de liaison existe également dans le cadre de la fonction publique ?
Pour l'instant, c'est prévu dans le privé. Mais on a bien vu qu'il y a des effets de contamination et puis il y a des effets petit à petit.
Une contamination positive, là, alors, on va dire.
C'est simplement, il y a des dispositifs qui existent par exemple, la visite de pré-reprise n'existe pas dans la fonction publique. Mais les médecins du travail ou les médecins de prévention dans la fonction publique, ils en ont entendu parler, la visite de pré-reprise. Et donc, finalement, c'est ce que j'appelle la contamination. Ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est favorable aux fonctionnaires aussi. Et donc, vous avez aujourd'hui des médecins de prévention ou du travail qui, lorsqu'ils ont une demande de visite de pré-reprise, ils l'accordent. Mais ce n'est pas prévu encore dans les textes. Mais sûrement, moi, je pense que d'ici quelques années, il y aura des. Les textes suivront dans la fonction publique.
Très bien.
Et il y avait une autre question tout à l'heure. Tu parlais des moyens de communication pendant un arrêt de travail. Et il y a une question par rapport au courrier postal avec accusé de réception. Est-ce que c'est possible d'envoyer un courrier comme cela à un salarié qui est en arrêt de travail?
Alors, il faudrait savoir ce qui. Oui, on peut envoyer un courrier à un salarié. Tout dépend de ce qu'il y a dans le courrier, en fait. Voilà, je ne sais pas quel est le contenu du courrier, mais par exemple, parce que tout le monde pense par exemple que l'arrêt de travail est protecteur du licenciement. Alors oui, l'arrêt de travail est protecteur du licenciement discriminatoire, donc d'un licenciement en lien avec l'état de santé. Mais un employeur, par exemple, qui serait amené à restructurer son entreprise ou qui souhaiterait proposer une rupture conventionnelle ou, j'en sais rien, qui malheureusement a des problèmes, doit procéder à un licenciement économique, ben, où il y avait déjà des problèmes entre le salarié et l'employeur avant, et donc là, le salarié est en arrêt de travail, mais il y avait sur la table un rendez-vous qui allait être proposé dans l'optique d'un licenciement. Ben, tout ça, c'est des courriers qui peuvent être envoyés au salarié pour lui demander, pour l'informer qu'on le convoque à une visite, à une rencontre par rapport à un licenciement, par exemple. Et là, le salarié, lui, il n'a pas, par exemple, dans le cas où on va mettre en place un licenciement, le salarié n'a pas l'obligation de se rendre à ce rendez-vous, mais l'employeur pourra continuer la procédure de licenciement si le salarié ne vient pas au rendez-vous. Donc, il faut bien avoir en tête, un arrêt de travail protège du licenciement discriminatoire, mais ne protège pas de toutes les formes de licenciement.
Ok, on a justement une autre question par rapport au licenciement. Que faire lorsque l'employeur pousse pour une déclaration inaptitude pour pouvoir licencier légalement et remplacer la personne qu'il considère être devenue une charge pour l'entreprise ?
Alors déjà, c'est, je sais pas, moi je connais pas l'historique, mais le seul qui puisse décider de l'inaptitude, c'est le médecin du travail. Donc le médecin du travail est censé être indépendant par rapport à l'employeur. Donc normalement, il n'y a pas à recevoir d'ordre d'un employeur pour pousser pour déclarer une inaptitude. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, il y a quand même des recommandations fortes, hein, des tutelles, pour essayer, dans la mesure du possible, de préserver l'emploi de la personne qui revient. Inaptitude au poste, décidée par le médecin du travail, et dans certains cas, effectivement, on n'a pas d'autre choix parce que la personne va reprendre son poste, ça mettrait sa santé en danger. Donc, il peut y avoir une inaptitude au poste, mais ça ne veut pas dire inaptitude à tout poste. Donc, derrière, il va se déclencher ce qu'on appelle le reclassement. Donc, même lorsqu'un médecin du travail prononce une inaptitude au poste, il va y avoir une obligation de reclassement à charge de l'employeur qui, effectivement, va devoir regarder dans son entreprise et s'il y a plusieurs filiales, dans toutes les filiales du groupe en France, si oui ou non, il y a une possibilité de reclasser la personne dans l'entreprise. Donc, inaptitude ne veut pas nécessairement dire départ de l'entreprise. Il y a des cas de figure comme ça, où notamment dans la fonction publique, si on n'a pas l'inaptitude, on ne peut pas proposer le reclassement aux fonctionnaires. Donc, il y en a parfois, ils ont vraiment besoin qu'on prononce l'inaptitude pour entraîner le reclassement. Mais effectivement, l'employeur peut aussi faire pression auprès du salarié. Et là, il faut pas hésiter à appeler une ligne comme la nôtre. Hein, ça peut être Jurys Santé, mais il y a certainement d'autres associations qui font la même chose. Et demander, nous, on sait que dans ces cas-là, on renvoie vers un avocat spécialisé en droit du travail pour que l'avocat évalue avec la personne qu'est-ce qui se passe au sein de son entreprise, quel est le type de pression auquel il est… Il est confronté, de manière à éventuellement, en tout cas, être en capacité de se défendre par rapport à ça.
Alors, ça amène à une autre question qui est sur justement quand la personne se sent plus apte à son emploi actuel. Et il y a la possibilité maintenant d'avoir un contrat de rééducation professionnelle. Oui,
alors c'est en parallèle, avant ce contrat de rééducation professionnelle, c'était était accessible aux personnes en situation de handicap, mais n'était pas accessible aux personnes qui étaient qui n'étaient ni en pension d'invalidité, qui n'avaient pas fait de reconnaissance qualité de travailleur handicapé, et ça leur était pas accessible. Donc là, on a étendu en fait le champ d'application de ce contrat de rééducation professionnelle pour permettre effectivement aux personnes qui ont été en arrêt maladie, alors c'est souvent c'est des arrêts maladie souvent un petit peu longs, hein, mais de pouvoir effectivement bénéficier de ce type de contrat pour là aussi soit se réaccoutumer à leur poste, soit exercer un nouvel emploi. Là, de nouveau, c'est ou dans l'entreprise dans lequel ils ont leur poste de travail ou dans une autre entreprise. Et là, on est donc laissé encadrer, vous vous souvenez, hein, je vous ai dit 14 jours renouvelables une fois. Ici, on est sur un contrat de 18 mois et là, avec un financement tripartite où il va y avoir une participation de la Sécurité sociale et une participation de l'employeur.
Très bien.
Donc, c'est vraiment aujourd'hui la grande préoccupation, c'est de lutter contre la désinsertion professionnelle des personnes qui ont été en arrêt de travail. C'est vraiment un des objectifs majeurs. Moi, je me souviens, dans les années 2010-2011, on commençait à entendre parler des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, mais leur accès était très limité, c'était difficile de les mettre en action, etc. Tout s'est vraiment assoupli pour… à l'époque, il y avait par exemple en 2011, on voulait actionner la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Il n'y avait que le médecin conseil de la Sécurité sociale qui pouvait tirer la sonnette d'alarme et demander effectivement à ce que la CARSAT convoque. Donc, parce que ça, c'est le champ de la CARSAT dans le privé.
Alors, la CARSAT, il faut rappeler…
CARSAT, c'est caisse, c'est… je ne sais pas… Je n'ai pas en tête, je suis désolée, on a tellement l'habitude de
la CARSAT, c'est les caisses de retraite, en fait.
Hein. En fait, c'est plus que les caisses de retraite parce qu'ils s'occupent de tout ce qui est santé au travail aussi.
Oui.
Donc, mais il y a bien quelqu'un qui va… Je ne sais pas, Lise, tu peux peut-être regarder vite fait et mettre le lien à la CARSAT. Mais de toute façon, on ne va pas appeler… Peu importe que ce soit la CARSAT, je vous parle des années 2011.
Oui, oui.
C'était à l'époque, le seul moyen, c'était effectivement le médecin conseil, la Sécurité sociale détectait un risque de désinsertion professionnelle, alertait la CARSAT, la CARSAT convoquait la personne, proposait, et là, on proposait soit bilan de compétences et éventuellement une formation, et le tout pouvait être suivi pendant l'arrêt de travail. Et donc, on était sur un fonctionnement, finalement, il y avait plein de gens qui échappaient, enfin, qui n'étaient pas repérés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus souple, puisque aujourd'hui, le médecin du travail peut aussi alerter, le médecin conseil peut alerter, le médecin traitant peut alerter, mais la personne elle-même, si elle se dit, bah, moi, ça va être très compliqué de reprendre mon poste, elle voit, il y en a hein, qui, effectivement, parfois, c'est assez surprenant, mais il y a des personnes qui ne sont jamais convoquées par la Sécurité sociale, et bah, quand on voit qu'on n'est pas convoqué sur la Sécurité sociale et qu'on se dit, ça va quand même très compliqué de reprendre mon poste, aujourd'hui, on peut appeler le service social de la CPAM pour demander un rendez-vous avec l'assistante sociale et évoquer ce risque de désinsertion professionnelle. Et ensuite, voilà, on vous guide, hein, vous n'avez pas de choses particulières à faire. Mais c'est vraiment l'optique aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut réduire le nombre de licenciements pour inaptitude. Chaque fois qu'on peut aménager, proposer un autre poste, il faut pouvoir le faire. Donc, les employeurs sont aussi confrontés, si vous voulez, si vous voyez qu'un employeur ne vous propose pas du tout de poste dans le cadre du reclassement ou vous propose des postes qui, visiblement, n'ont rien à voir avec vos compétences et vos capacités, eh ben, ça peut être porté au prud'homme par rapport au fait qu'il ne respecte pas ses obligations. Puisque quand on est reclassé, on doit être reclassé dans un poste le plus proche possible de celui qu'on avait avant par rapport à son niveau de compétences et de capacités.
Et il me semble aussi que tu voulais aussi parler et mettre en garde les personnes qui sont en arrêt maladie sur le fait qu'il ne faut surtout pas qu'ils oublient aujourd'hui d'envoyer leur arrêt maladie, parce que s'ils ne les envoient pas dans les temps, alors voilà, qu'est-ce que ça on risque aujourd'hui? C'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça.
Oui, oui, en fait, c'est que vous avez de temps en temps… Alors, ça dépend toujours des relations avec l'employeur, bien sûr. Hein. Il y a des personnes qui, effectivement, du fait de la pathologie, des hospitalisations, etc., oublient, c'est compliqué d'envoyer leurs arrêts de travail ou leur bulletin d'hospitalisation à leur employeur. Donc, or, vous avez 48 heures pour le faire. Au-delà des 48 heures, ben, l'employeur, si vous ne lui avez pas donné de nouvelles, il peut se poser la question, est-ce que vous avez abandonné votre poste ou pas ? Ensuite, il y a quand même une procédure à suivre, hein, il doit vous mettre en demeure de reprendre votre poste. Mais pour certaines personnes, c'est arrivé que ben, si vous êtes hospitalisé, et si vous n'avez personne qui va chez vous récupérer votre courrier, vous pouvez ne pas avoir ce courrier de l'employeur qui vous met en demeure de lui fournir une explication quant au fait que vous n'êtes pas à votre poste. Donc, il faut vraiment faire très, très attention à ça aujourd'hui, parce qu'avant, ça ne posait pas trop de soucis. Enfin, avant, vous pouviez être licencié pour abandon de poste, mais vous conserviez vos droits aux allocations de retour à l'emploi. Donc, vous étiez…
Allocations chômage.
Les allocations chômage, donc vous pouviez vous inscrire à Pôle emploi et être indemnisé. Aujourd'hui, le décret est sorti là, au début du mois d'avril. Dorénavant, toute personne qui est en abandon de poste n'aura plus accès qui est licencié pour abandon de poste n'aura plus accès aux indemnisations de Pôle emploi, donc n'aura plus accès à l'allocation de retour à l'emploi. Donc il y a vraiment un point d'attention parce que en règle générale, quand les personnes s'entendent bien avec leur employeur, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, il y a des échanges téléphoniques qui se font. On explique que je suis à l'hôpital, je vais avoir du retard pour vous envoyer le document. Ça ne pose pas de problème. Mais quand on a des situations qui sont déjà tendues, ben, ne pas envoyer son arrêt de travail dans les temps, ne pas envoyer ses bulletins d'hospitalisation, ne pas répondre à une lettre que vous avez d'ailleurs éventuellement pas reçue, eh bien, ça peut conduire effectivement à un licenciement pour abandon de poste.
Ouais, très important de le signaler, hein, parce que effectivement, ça peut mettre déjà des personnes qui sont dans un état de vulnérabilité et les mettre dans un état de précarité. Ça a quand même des conséquences fortes. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets de cancer et droits parce que sinon, si vous n'en avez pas tout de suite, on va peut-être aborder les sujets des assurances et puis on pourra revenir de toute façon s'il y a d'autres questions sur ce sujet-là plus tard. Mais pour qu'on avance, parce que là, on voulait aussi, avec Dominique, voir les nouveautés en 2022.